depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro de son débat sur l'incursion des troupes ougandaises aux côtés des forces armées congolaises. Alors comme vous le savez déjà, cette décision du chef de l'État congolais qui rentre dans l'optique de mener des offensives conjointes contre les rebelles de l'ADF fait polémique à travers le pays. Les avis divergent. Selon vous, s'agit-il réellement d'une mutualisation des forces et que peut-on craindre dans les jours, semaines, mois et années à venir? Vous pouvez participer à cette émission. Déjà, vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces programmes sur notre page Facebook. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Vous pouvez également participer en direct en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Et vous avez également la possibilité de réécouter cette émission sur www.radiocapi.net et vous aurez droit à une rediffusion tout à l'heure dans la soirée. Bob Miladou assure la mise en onde de cette émission réalisée par Vanessa Kongolo et ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de l'interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Les troupes ougandaises participent dans des opérations militaires en RDC depuis le 30 novembre dernier. Nous recevons dans ces studios professeur Chibangu Kalala qui est avec nous. Lui, il est spécialiste en droit international et également sur des questions de la géopolitique. Professeur, merci d'être venu et de nous avoir honoré de votre présence dans ces studios.
C'est à moi de vous remercier.
Et en tout temps, nous allons nous acquitter de ce devoir de pouvoir vous dire félicitations parce que vous avez été élevé au rang de professeur ordinaire à l'Unikin.
Merci beaucoup, J.R.
Voilà. Exact. Et aussi, merci donc d'accepter de partager ces moments avec l'ensemble des auditeurs qui sont déjà nombreux en ligne. Il y a Mathieu, il y a Simon, également Christian qui est à Kinshasa. Mais d'entrée de jeu, on parle de la mutualisation des forces entre les FRDC et les forces ougandaises. C'est quoi la mutualisation des forces?
Merci beaucoup, J.R. Lungembo, à toute la direction de Radio Okapi. Pour encore une fois cette occasion que vous me donnez d'échanger sur ce sujet qui est très important. Je remercie aussi tous les amis Okapi qui sont déjà en ligne et qui vont suivre cette émission. J.R. Lungembo, j'aimerais d'abord dire ceci. Vous avez prononcé le mot géopolitique. La RDC ne va pas échapper à sa géographie. La géopolitique, c'est des choix politiques dictés par des considérations de la géographie. Géographie physique, géographie humaine d'un pays. Vous ne pouvez pas faire la politique dans votre pays sans tenir compte de votre géographie. Très important. Mais la RDC, c'est quoi? La RDC, c'est 9 pays voisins. C'est le deuxième pays africain en termes de superficie. Mais je dirais même le premier, parce que le premier pays, c'est l'Algérie, mais l'Algérie, c'est le sable, c'est le désert. Mais la RDC, c'est un territoire, c'est une terre utile, fertile, partout, avec des richesses extraordinaires. 9 pays voisins. Et donc, la RDC ne peut pas faire la politique, le gouvernement congolais ou le président de la République ne peuvent pas faire la politique en RDC sans tenir compte de cette géographie. Une masse terrestre immense, au cœur de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous avons un ennemi. Cet ennemi tue nos enfants, tue nos femmes, tue nos frères et sœurs dans la partie est de notre pays. Et depuis plusieurs années, le président de la République a trouvé cette situation. Il a hérité des régimes passés. Problème. Et cet ennemi, c'est un ennemi sans visage. On ne connaît pas où il se trouve. Il fuit. Et nous sommes dans une sorte de ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Bon. C'est un ennemi invisible. Les dernières informations que nous venons de recevoir à partir des otages qui ont été libérés. Qu'est-ce que ces otages des ADF nous disent? Que là-dedans, il y a des Kenyans. Parmi les rebelles, ADF. Il y a des Kenyans. Il y a des Ougandais. Il y a des Congolais. Il y a des Éthiopiens. Il y a des Tanzaniens. Donc, c'est une multinationale terroriste qui vient de plusieurs pays. Et donc, pour combattre un tel ennemi, qui a des ramifications dans toute la région, en Afrique, mais on ne peut pas combattre à partir du territoire de la RDC. Vous comprenez? Et donc, il faut sortir du niveau national pour se hisser au plan régional, sous-régional, pour combattre cet ennemi. Et pour cela, on ne peut pas compter seulement sur notre armée à nous, sur nos propres forces de sécurité. Et donc, nous devons mettre en place une coordination au niveau régional. Au niveau régional.
Certains politiques pensent qu'un tel choix politique devait requérir l'autorisation du Parlement.
Non, ça c'est du n'importe quoi. Il y a des gens qui se trompent lourdement.
Parce que vous avez parlé d'un ennemi.
Écoutez, la Constitution est claire. Le gouvernement, et surtout le président de la République, ne peut consulter l'Assemblée nationale, disons le Parlement, que s'il y a déclaration de guerre. Mais le président de la République, l'article 86, 143 de la Constitution, ces deux sont clairs. Nous ne sommes pas dans une situation où le président de la République a proclamé la guerre.
Parce que c'est là où on parle des accords, des traités, du massigné à l'état national.
Non, justement, le président, nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'une déclaration de guerre. Mais on déclare la guerre contre qui? Le président a déclaré la guerre contre qui? On n'est pas dans une guerre interétatique. Non. Et donc, s'il y a...
Parce que l'ennemi n'est pas connu.
Oui. Mais...
Une guerre asymétrique.
Oui. Et donc, c'est des bandits, des délinquants, des assassins qui se cachent dans la forêt. Bon. Des criminels de ce genre. Et donc, le président ne peut pas utiliser l'article 86 pour déclarer la guerre. Vous déclarez la guerre contre qui? Vous n'avez pas un État en face de vous, vous n'avez pas une armée conventionnelle. La RDC n'est pas envahie par un État étranger, mais vous déclarez la guerre contre qui? Et donc, nous ne sommes pas dans l'hypothèse où le président a déclaré la guerre, et avant de déclarer la guerre, ça va être discuté au niveau du Conseil des ministres, il prend une ordonnance, promesse de guerre, le Conseil supérieur de la défense est consulté, donne son avis, et puis, ça passe au Parlement, les deux chambres, qui donnent l'autorisation. On doit lui donner l'autorisation. Mais on n'est pas dans cette hypothèse-là, donc il ne faut pas confondre ce que j'ai entendu des gens dire. Oui, mais oui,
il fallait le Parlement n'a pas été informé. L'autorisation du Parlement.
Non, non, mais ça c'est du n'importe quoi. Ils se fondent sur quoi? Sur quelles règles? La loi ou la Constitution, ils se fondent sur quoi? On n'est pas dans cette hypothèse-là. Quand le président a proclamé l'état de siège, eh bien, on a respecté la procédure constitutionnelle. Et c'est le Parlement qui tient la main, qui prolonge tous les jours ici, toutes les deux semaines, on prolonge l'état de siège. Là, on est dans la Constitution.
Donc, mais quelle est la différence avec la situation qui s'est produite en 2009 avec Vital Kamerhe, pour ne pas les citer, et lorsque les troupes rwandaises sont arrivées sur le sol congolais?
Oui, le problème est le suivant. On ne gouverne pas un pays dans la rue. Un État, c'est un État. Il y a des secrets d'État, il y a des secrets défense, etc. On ne dirige pas un pays dans la rue. Il y a des choses qui se font au niveau des autorités supérieures du pays. Au niveau des armées, des services de renseignement, renseignement civil, renseignement militaire, etc. La RDC est en relation d'échange d'informations avec des services de renseignement d'autres pays. Mais ça ne se traite pas dans la rue. On ne va pas passer dans la presse pour commencer à raconter cela. Vous comprenez? Et donc, il y a le président de la République, c'est le commandant suprême des forces armées. C'est lui le chef de l'armée, mais c'est lui. Et donc, les informations qu'il a sur la table, les discussions que l'état-major, que les services, en rapport avec d'autres pays, tout ça, ça tombe sur la table. Et il prend les décisions en fonction de l'intérêt général. Nous sommes dans la géopolitique. La géopolitique approche l'État comme un être vivant, mm-hmm. dans la géopolitique, comme un être qui naît, qui grandit et qui meurt. Nous avons déjà dans notre pays un État qui a disparu, l'État indépendant du Congo avec Léopold II. C'était un État souverain, indépendant, qui traitait avec tous les autres pays, mais cet État a disparu. Et donc, la géopolitique approche l'État comme un être vivant, qui grandit et qui peut mourir. Et les géopoliticiens travaillent pour que l'État puisse vivre au moins pendant 1000 ans, en format des stratégies. Des études. Donc nous pourrions en parler au cours de cette émission, parce qu'aujourd'hui nous allons faire un peu de technique.
Mais les choix portés sur l'Ouganda, alors, c'est là où ça pose problème.
Mais justement, c'est dans la géopolitique.
Parce que l'histoire du passé nous renseigne que finalement l'Ouganda a des contentieux avec nous. Et vous avez été même l'avocat de la République du Congo. Vous, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que l'État vous puisse vous ravir cette fonction que vous avez donnée pour la réparation des dégâts causés par l'Ouganda sur le sol pendant la guerre de Six Jours.
Oui, exactement. Bon, ça, c'est le procès. Ce procès est en moi. Je vis là-dedans. On pourra en parler. Mais ce n'est pas un choix sentimental. Le président de la République n'a pas fait un choix sentimental par rapport à l'Ouganda. Le président de la République, c'est un géopoliticien. Il travaille matin, midi, soir pour la défense des intérêts de la RDC, les intérêts du peuple congolais. Nous avons des intérêts là-bas. Nous avons un ennemi commun. Cet ennemi qui a des ramifications en Ouganda. Il y a des Ougandais qui sont là. Je ne sais pas si les gens connaissent un peu la géographie. Hein. Parce que là où se déroulent ces opérations, c'est à la frontière. Territoire de Beni, Irumu, Djougou. Irumu et Djougou, c'est sur le lac Albert. Là, nous sommes dans l'Ituri. Et Beni, c'est vers le lac Édouard. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Et il y a le mont Rionzori par là. Mais cet endroit-là, c'est un endroit très dangereux. C'est un endroit inhospitalier. Je vois encore
le triangle comment... de la mort.
Oui, mais je vois encore comment les Belges et les Anglais se sont affrontés là-bas pour se partager les monts Rionzori, pour que nous ayons la partie est et l'Ouganda de l'autre côté. Donc nous sommes des voisins. C'est à la frontière que ça se passe. Et les voyous, les délinquants qui tuent nos frères et nos sœurs dans le Nord Kivu ou dans l'Ituri, il se replie de l'autre côté de l'Ouganda, voyez-vous. Mais pour combattre un tel ennemi...
Oui, parce que nous rappelons de l'histoire des M23. M23, à un moment, ils se sont repliés, ils sont allés se recroqueviller vers...
Exactement. Mais donc, il faut que l'Ouganda et la RDC, qui est le désarmé, travaillent ensemble pour maîtriser, anéantir cet ennemi qui est un ennemi commun.
Mais parce que nous sommes dans la sous-région, dans la région même, le Rwanda n'a pas pris ça du bon côté.
On n'a rien à voir avec le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui dicte la politique de la RDC. Nous avons ceux qui sont tués à Beni, à Irumu, à Djougou. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Il ne faut pas mêler le Rwanda à cette affaire. L'Ouganda, c'est un pays voisin. Nous avons 817 kilomètres de frontière avec l'Ouganda. Mais pour contrôler cette frontière, où il y a des bandits et des voyous, mais il faut qu'ils tuent les gens, qu'ils pillent les richesses naturelles dans cette région. Mais il faut que la RDC et l'Ouganda travaillent ensemble. Nous sommes, avec l'Ouganda, membres de l'Union africaine. Nous sommes membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, avec l'Ouganda. Nous sommes des voisins. Bientôt là, le président de la République, je vous ai dit que c'est un géopoliticien. Eh bien, la géographie de notre pays. Et qu'est-ce qu'il fait? À peine arrivé, bon, la RDC va bientôt devenir membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Non, Et nous sommes là, nous allons rejoindre l'Ouganda. Donc, tout est fait pour que nous puissions travailler ensemble avec l'Ouganda. Il n'y a pas longtemps, le président a signé des accords avec l'Ouganda pour la construction des routes.
Tout à fait.
Dans cette région-là. La coopération économique, la coopération financière, etc. Mais nous devons avoir aussi la coopération militaire parce que nous avons des délinquants, des voyous qui perturbent la paix, la sécurité dans cette région frontalière et qui empêchent les deux pays à bien travailler pour assurer le développement économique.
Donc, si je comprends bien, professeur, la décision prise par le chef de l'État, disons, n'a pas dérangé l'esprit de la Constitution. Et c'est légal. Ça se justifie.
Et je termine. Un ennemi commun, voyez-vous, il faut le combattre avec les ennemis de ce même ennemi. L'ennemi de mon ennemi
est mon ennemi.
Non, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami, devient mon allié. Or, donc nous avons un ennemi commun, l'ADF, qui est l'ennemi de l'Ouganda, qui est l'ennemi de la RDC, et donc l'Ougandais, forcément, sans sentiment, les intérêts font que nous devons combattre cet ennemi commun. Même si, plus tard, en géopolitique, les alliances, on connaît ce que c'est. Mm-hmm. Même si plus tard,
voilà, c'est là où je voulais dire,
cet ami d'aujourd'hui peut devenir demain le pire des adversaires.
Voilà.
Mais pour le moment, l'Ouganda, c'est un ami, nous combattons ensemble un ennemi commun. Il ne faut pas faire des sentiments. Il faut qu'on protège notre population, qu'on arrête les massacres, et la coopération militaire, sécuritaire avec l'Ouganda, eh bien, c'est une coopération qui est bienvenue.
Voilà, on va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints. Ils sont nombreux, en tout cas, à avoir lu et partagé ces sujets hein, sur la toile, parce qu'ils ont trouvé vraiment de l'intérêt par rapport à cette question. Beaucoup de questionnements. Les gens, il y a même ceux qui Kisangani nous ont appelés pour dire que voilà, ils gardent encore un mauvais souvenir de l'Ouganda. Est-ce que ça ne sera pas la même situation qui va se reproduire? Quelles sont les garanties? Est-ce qu'on peut nous dire exactement l'acte d'engagement signé? Est-ce que ça ne nous renvoie pas à l'accord de l'Emera et tant d'autres? Plusieurs questionnements. Mais on va essayer de répondre à cette question. Mathieu, Simon et Christian, vous êtes en ligne. 081-890-6330 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Mathieu, vous êtes à Béni. Bonjour Mathieu.
Bonjour Monsieur Jure et bonjour à Monsieur le professeur.
Alors vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Oui, en tout cas d'emblée, moi je voulais dire que s'il faut mutualiser les FARC-CC même avec le diable pour le retour de la paix, mais aussi faciliter l'éradication de groupes armés à Beni et à Ituri, c'est la moindre des choses. Donc la population ne peut que accepter cette belle proposition et encourager une telle décision. Parce que Monsieur Jure, s'il faut faire un rétropédalage dans l'histoire, cette décision des coalitions entre les IPDF et les FARC-CC semble être inopportune, vu l'arrêt de la saisie. Le professeur lui-même l'a reconnu, qu'il a été avocat de la République dans ces dossiers-là.
Et la Cour internationale de la justice
a condamné l'Ouganda d'avoir orchestré
des violences,
des tueries dans la région. C'est à cela où la population a un peu de doute. Mais comme la politique est tellement mouvante, nous osons encore donner de la chance et aussi de la confiance à cette mutualisation, parce que cette mutualisation vise notamment le retour de la paix. Mais ce qui m'inquiète, c'est que il y a des États voisins comme
le Rwanda,
l'invité a reconnu, qui ne sont pas d'accord. Et même la Monisco dit qu'elle n'est pas prête à soutenir les travaux effectués par la coalition FARC-DC et IPDF, car pour la Monisco, ils pensent que sans la guerre, il n'est pas, donc il n'y a pas de travail. Donc au moins une fois de plus, cette Monisco a semblé être cohérente et a démontré clairement à la face du monde qu'il ne veut pas que la guerre se termine au Congo. Mais nous, la population qui vivons ici, qui vivons les atrocités des ADF, nous demandons rien que la paix et rien que la paix. Donc,
voilà.
Si aujourd'hui la mutualisation c'est la solution
pour l'établissement de la paix.
Vraiment, nous saluons la démarche.
Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir appelé de Béni. Alors, il y a plusieurs informations que vous avez pu évoquer qui méritent quand même quelques éclairages. Hein. On va y revenir avec notre invité tout à l'heure. Alors, on prend Simon Siloulou. Vous êtes à Matadi, Simon. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Simon.
Oui, bonjour à vous et bonjour à l'invité. Aussi, bonjour à tous les auditeurs. La radio Capi qui nous suivent à travers le monde entier.
Alors, vous avez dit dans votre message que le chef de l'État, c'est la personne qui est très bien informée par rapport à la situation du pays. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Parce que là, vous rejoignez le propos tout à l'heure de notre invité, le professeur Tshibangoukalala.
Oui, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, sur les plus de 100 millions d'habitants, si c'est vraiment le nombre de ceux qui sont, la personne la mieux informée sur la situation du pays, c'est le président de la République. Et donc, par rapport aux informations qu'il dispose, les informations qui lui ont été données par des services de renseignement internes et externes, Et s'il peut prendre une décision, parce que n'oublions pas, l'Est là, c'est plus de 20 ans déjà que nos frères sont en train d'être arrachés la vie comme ça, que nous, même qui sommes à l'Ouest ici, nous payons le prix de cette guerre parce que l'argent est focalisé à cette question-là. Donc nous subissons de manière indirecte. Et c'est pourquoi nous sommes en train de compatir de tous les malheurs qui se disent à l'Est à cause de ces malfrats venus, nous ne savons de quelle planète, qui enlèvent la vie à leurs collègues, à leurs semblables. Et donc, le président de la République, ayant toutes les informations, parce qu'on a essayé, c'est comme un auteur avait écrit sous forme d'une chanson, mini totalité pour cette guerre. On a tout essayé. Maintenant, la question revient, si parmi les solutions qu'on a eu à éviter, et posant les informations en place, et que cette solution pouvait mettre fin à cette histoire qui date de plus de deux décennies, moi je pense qu'il faut y aller, et que parce que qui ne risque rien à rien. Mais tout de même, je me rappelle des deux proverbes africains qui disent l'un dit ceci, oublier son chemin, c'est mieux le connaître. Et puis la présence qui risque quand on tombe une fois. Donc la RDC maintenant n'ira pas avec Ouganda comme autrefois parce que nous sommes déjà tombés, donc nous sommes plus prudents et nous sommes plus regardants parce que nous connaissons ce qu'il y a eu par le passé. Donc qu'on accompagne le président.
Oui, Simon Siloulou, il y a un compatriote qui a réagi sur notre page Facebook évoquant les faits qui se sont déroulés avant celui que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu l'accord de l'Émirat où il y avait le Rwanda, l'Ouganda qui s'étaient associés, qui ont amené au pouvoir Mouzé. Il y a eu également cette tentative avec Joseph Kabila et le Rwandais et qui l'avaient marché tout de suite parce que la communauté internationale avait réagi et même la population n'avait pas disons, on n'avait pas accepté cette logique-là. Maintenant, c'est la troisième fois que l'Ouganda entre encore en scène. Et qu'ils disent que finalement, ça risque de produire les mêmes causes, produisant les mêmes effets. Nous risquons de reconnaître la même situation. Ça sera toujours un échec.
Nous sommes des humains. J'ai dit la prudence mûrit quand on tombe une fois. Oubliez ton chemin, c'est mieux le connaître. Si vous avez oublié une direction, la deuxième fois sur le même endroit, vous n'allez pas oublier. Vous allez prendre des précautions parce que vous aurez des signaux qui vont vous faire voir que ici, ce n'était pas ça la route. Donc maintenant là, les informations que disposent les premiers citoyens, les garants de bon fonctionnement des institutions, si elles peuvent lui prouver que maintenant, vous devez faire comme ça. Parce que au malin, moi, j'ai malin.
Malin demi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon Siloulou, d'avoir appelé. Alors, on va prendre Christian. Christian, vous êtes avec nous.
Bonjour, Jerry. Bonjour, l'invité.
Alors, vous avez suivi notre invité tout à l'heure qui parlait de la géopolitique. Et dans la géopolitique, il y a le choix politique qui est dicté par rapport à la géographie. Et la décision prise par le chef de l'État, pour notre invité, c'est vraiment l'idéal pour amener le rétablissement de la paix. Est-ce que vous pensez à cela aussi?
En tout cas, je salue d'abord l'invité. Vous savez, lui, quand il parle, il parle comme un porte-parole du gouvernement lorsqu'il parle du Congo. C'est parmi les cinq personnes qui nous font oublier la mère Mende, qui Mende jusqu'aujourd'hui demeure l'un des meilleurs porte-parole du gouvernement.
Vraiment, donc vous estimez que les professeurs communiquent très bien sur ces sujets?
Évidemment, Gérard Lungembo, c'est plus qu'un porte-parole du gouvernement. Il est le seul, ou encore parmi les rares personnes qui nous font oublier la mère Mende, qui Mende demeure jusqu'aujourd'hui parmi les meilleurs porte-parole du gouvernement. Et par rapport à ce que les profs a dit, en tout cas, moi, je dirais que la seule les choses qui pourra facilement nous pousser à épouser ces analyses, en tout cas c'est les résultats. Aujourd'hui, il faudrait dire qu'au regard justement des effets que cette armée a produit dans le passé, les inquiétudes, en tout cas, ce n'est que normal. Il y a lié qu'il y ait certaines inquiétudes de voir à nouveau la présence de cette armée sur le sol congolais. Mais seulement, il ne faudrait pas oublier que face à une telle guerre ou encore à un tel ennemi, en tout cas, il faut nécessairement composer avec d'autres nations. Il faut compléter avec d'autres nations pour pouvoir combattre cet ennemi, parce que lequel ennemi s'avère être commun et pour les Congolais et pour l'Ouganda, par exemple. Mais seulement, Jean Ngembo, il faudrait ici chercher tout simplement à d'emblée déjà louer en fait l'initiative. Mais seulement, il serait meilleur ou il serait mieux si les deux armées poursuivent les mêmes objectifs. Il ne serait pas bon que l'un a un autre objectif et l'autre a un agenda caché.
Mmh. Et, alors comment les savoir qui a un agenda caché? Comment les savoir maintenant? C'est compliqué.
C'est
là où on parle de secret défense. Voilà. Alors, merci beaucoup, Christian.
Pour finir, je dirais que cela sera décelé facilement sur le terrain. Mais il aurait été également prudent, justement, de signer un acte d'engagement, décrivant limitativement les obligations de l'un et de l'autre. Parce que nous savons que, par exemple, c'est qui l'intervention de Bemba au Centrafrique, c'est que ça a
produit un acte d'engagement qui ne sera pas mis sur la place publique. Parce que ça relève de secret défense.
Lorsqu'il y aura justement des préjudices, cela pourrait facilement nous faciliter. Parce que
devant la justice.
La justice internationale nous donne la fin d'une justice, c'est comme le football. La justice amène 3 résultats. Nous avons la victoire, la défaite et le match nul. Oui. Par exemple, le dossier Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, Bemba a été acquitté. Mais vous avez les victimes qui sont aujourd'hui indemnisées par la Cour. Et donc, or, nous savons que dans la justice, il y a que des résultats. Il y a un perdant et il y a un gagnant. Mmh. Mais aujourd'hui, face à ce troisième résultat qui s'avère être le match nul, en tout cas, ça laisse planer encore quelques doutes. Donc, voilà pourquoi il faudrait vraiment que nous soyons souples, vigilants par
donc
rapport
vous,
à cette armée.
Vous estimez qu'un acte d'engagement signé, ça pourrait protéger les intérêts des Congolais. Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé. Alors, on va terminer cette première série avec vous, professeur Soumey. Vous êtes depuis les États-Unis. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'invité.
Voilà, vous avez la parole. Quelle est votre contribution par rapport à cette actualité? Parce qu'un regard politique, vous êtes un homme politique.
La mutualisation des troupes n'est pas mauvaise, mais cependant, la procédure, si il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord de cette façon-là de faire les choses. Je pense que c'est la procédure, parce que nous sommes en litige avec l'Ouganda. On n'a pas encore fini, on n'a pas encore enterré notre hache de guerre avec l'Ouganda. Et si aujourd'hui, la population voit de mauvais oeil l'Ouganda, c'est parce que à partir de l'expérience qu'elle a vécue avec l'Ouganda. Je pense bien que même la procédure pour inviter les troupes n'a pas été respectée. Il ne suffit pas de prendre son téléphone et dire au président du Sénat ou du Parlement que non, il y aura des troupes qui viendront. Mais il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Parce qu'il s'agit d'une intervention militaire, il s'agit de la sécurité, il s'agit d'un pays étranger qu'on invite. Moi, je pense bien que les chefs de l'État.
Alors pour vous, qu'est-ce qui aurait fallu être fait? Parce que vous pensez que quelle était la meilleure procédure?
La meilleure procédure, il fallait passer par un débat au niveau du Parlement et pouvoir décider les pour et les contre, et donner les orientations, et donner les limites, éclairer aussi l'opinion.
Oui, parce que nous référons à l'article 86 ou 89 jusqu'à l'article 89. La question de l'autorisation, ça relève quand il s'agit d'une déclaration de guerre, comme l'a dit d'ailleurs le professeur Tshibankala tout à l'heure. Mais là, nous sommes pas dans une déclaration de guerre pour obtenir l'autorisation du Parlement.
Oui, nous ne sommes pas dans l'autorisation de guerre, mais là, nous invitons les troupes qui ne sont pas les nôtres. Et vous savez qu'on invite notre armée qui vient intervenir sur votre sol, c'est très délicat. Il faut qu'il y ait au moins l'éclaircissement, comme ça, l'opinion nationale puisse savoir de quoi il est question, sinon peut être interprété dans tous les sens. Et je pense que ce n'est pas une question seulement de... C'est à partir de l'expérience que les gens sont devenus très réticents et du manque de respect de la parole donnée. C'est pourquoi aujourd'hui les gens voient ça de mauvais oeil. Parce que nous savons à qui nous avons affaire. Ce sont les gens qui disent oui à la fin. Ce n'est pas oui, c'est non. C'est ce qui fait peur maintenant, de ce temps, le vite qui va payer la facture, elle est élevée à combien, pour combien de temps ils vont être. Tout ça, on entre dans une aventure sans nom.
Voilà. Alors professeur Soumey, nous vous gardons encore en ligne, il est temps de revenir dans le studio avec professeur Tchibankalala, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, professeur Tchibankalala, vous avez suivi les uns les autres. Il y a Mathieu, il y a Simon, il y a Christian, et il y a également un professeur Soumey et tant d'autres qui ont réagi par rapport à cette question. Alors, comment... vous voyez, parce qu'il y a Christian qui a insisté beaucoup plus sur l'acte d'engagement.
Oui.
Est-ce que quelque part, il n'a pas tort?
Non. J'ai longué mot. D'abord, je tiens à féliciter tous les intervenants. Mathieu...
Simon
Siloulou de Matadi, j'aimerais bien rencontrer un jour Simon pour discuter. Christian, il était Kinshasa, j'aimerais bien rencontrer Christian, que je félicite pour les paroles aimables qu'il a prononcées à mon égard. Non, moi j'ai juste prêté serment dans ma vie de défendre ce pays, de défendre le peuple. C'est tout ce que je fais. Mais attention, nous parlons de la géopolitique. La géopolitique. Nous allons faire un peu de technique aujourd'hui. J'ai le Gémo, bon, on sort un peu de la politique. Ouais. Si on fait de la technique aujourd'hui, parce qu'on m'a appelé professeur, bon, il faut qu'on fasse un peu de technique.
Moi, il faut jouer votre rôle.
Nous parlons de la géopolitique. Mais la géopolitique, c'est la grande sœur. Mais elle a sa petite sœur, qu'on appelle la géostratégie. Donc, des choix militaires dictés par la géographie. Et donc le président de l'armée, qui est le chef de l'armée, mais il fait de la géostratégie. Il prend des décisions militaires, des choix militaires, en fonction de la géographie. Mais nous avons parlé de la géographie. L'ennemi qu'il faut combattre, il est à la frontière. C'est ça la géographie.
Tout à fait.
Eh bien, il faut que les autres pays frontaliers participent à ce combat. Pour qu'on puisse éradiquer l'ennemi commun dans la région. Je vous donne l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Il y a ce qu'on appelle le G5 Sahel. Bon. C'est cinq pays qui affrontent le même ennemi. Le djihadisme, le terrorisme. Bon, ils se sont mis ensemble. Avec le soutien de la France, qui a envoyé aussi une force là-bas. On l'appelle la force Barkhane. Pour soutenir. Donc, il y a un ennemi qu'on ne peut combattre qu'à l'échelle régionale. Donc, parce qu'il est à la frontière. C'est chez nous. Donc, il ne faut pas faire la confusion de ce jour-là. Donc, le président a bien procédé. Il fait de la géostratégie avec les chefs de l'armée. Donc, encore une fois, il faut que nos amis comprennent bien que le chef de guerre, le chef de l'armée, il n'agit pas au hasard comme ça. Il ne se réveille pas le matin pour dire, bon, l'Ouganda vient. J'aimerais préciser, la RDC ne va pas échapper à sa géographie. L'Ouganda n'est pas un pays ennemi. C'est un pays frère, ami et voisin.
Mais quand les M23 se sont repliés à l'Ouganda, l'Ouganda avait refusé de...
Je vais terminer. Combien de Congolais savent qu'il y a des Alours, les peuples Alours, en Ouganda et en RDC? Qu'il y a les Kakwa en Ouganda et des Kakwa en RDC? Des Lubara en Ouganda et de l'Obara à RDC. Idi Amin, le fameux Idi Amin, c'était un Kakwa. Mais quand il est chassé du pouvoir, d'État, il a fui.
Mais ça veut dire qu'il y a même des Nandés.
Il y a des Nandés en Ouganda, des Nandés, etc. On paye ce qu'on... Et donc, si vous arrivez sur le pont Goli, sur le Nil, mais tous les habitants, le Bounia, tout l'est du pays, mais ils sont tournés vers l'Ouganda. Vous arrivez à Haru.
À Ariwara.
Oui, justement. Vous arrivez
les
à
Haru. Les gens ont beaucoup plus la vie de l'autre
bien
côté.
Bien sûr, oui. Vous avez un marché qu'on appelle marché Kampala-Kinshasa. À Haru, à la frontière. Kampala-Kinshasa. Qui va empêcher les Congolais et les Ougandais de faire le marché, de faire du commerce dans le marché Kampala-Kinshasa.
Mais ne peut-on pas craindre demain la balkanisation?
Non.
Balkanisation.
Donc, la géographie humaine, la géographie physique, etc. Tout cela fait que la RDC ne peut qu'être en bon terme avec tous les pays voisins. Donc l'Ouganda, ce n'est pas un ennemi. nous avons eu des problèmes dans le passé, dans un contexte bien particulier, bien, où les troupes ougandaises étaient venues sans être invitées, officiellement, nous connaissons, il y avait un vide là-bas. Parce que quand la FDL a battu l'armée de Mobutu, ben, il n'y avait plus d'armée là-bas.
Tout à fait.
C'était un vide. Et la géopolitique n'aime pas le vide. La géopolitique a horreur du vide. Et bien, la géopolitique échouait. L'Ouganda a occupé le terrain là-bas. Parce qu'il n'y avait rien. Pas qu'une autorité de ce côté-là. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu dans, après. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent. Quand le président de la République arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il veut normaliser.
Donc on sait lire que l'Ouganda n'était pas en odeur de sainteté avec Kabila, à l'époque. Parce que les M23, quand ils sont allés là-bas, ils ont refusé catégoriquement de livrer les M23.
Ils avaient des contentieux entre là, de l'époque de l'AFDEL, de l'époque de la guerre de rectification, etc. Eh bien, le président Rapik, quand il arrive au pouvoir, il normalise les relations avec tous les pays voisins. Il normalise les relations avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Vous comprenez? Et donc, la RDC, et il est président de l'Union africaine. Vous ne pouvez pas être président de l'Union africaine et, d'un côté, tenir le discours de l'unité africaine, de la cohésion, de la coopération, et entre-temps, vous-même, vous avez des problèmes avec des États voisins. C'est un contresens. Et donc, le président a bien fait. La RDC ne peut pas, je formule autrement, est condamnée à avoir de meilleures relations, de bons voisinages, de créer la zone de coprospérité. Nous sommes une puissance enveilleuse. Nous devons créer une zone de coprospérité économique avec tous les pays voisins. Et donc, nous devons entretenir de meilleures relations possibles. Mais je vous donne l'exemple. Je vous donne l'exemple de la France et de l'Allemagne. Mais ces pays se sont battus au cours d'un siècle avec des guerres atroces. En 1870, la Prusse, l'Allemagne, écrase la France. Bon, en 1914-18, la France écrase l'Allemagne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la revanche. L'Allemagne écrase la France. Mais des atrocités indescriptibles. Mais aujourd'hui, le seul pays au monde où vous trouverez un plus grand nombre de Français, le plus grand nombre, c'est en Allemagne.
Oui, au sud, vers Metz, à Forbach, c'est vraiment de la frontière de la France-Allemagne.
Voilà, les Français sont de les plus nombreux en Allemagne que partout dans le monde.
Mais c'est le respect des accords. Oui. Mais nous avons l'accord d'Addis Abeba qui n'est jamais respecté dans la sous-région.
Nous n'allons pas continuer à mettre le deuil sur ce qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, qui est condamnable. Moi-même, j'ai fait le procès à La Haye et j'ai plaidé l'affaire de Kisangani. Guerre de mois de juin 2000.
Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'on vous retire de ce dossier? Parce que vous êtes bien parti avec ce dossier, professeur.
Je vais dire un mot là-dessus. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, la RDC, c'est une puissance en attente. Le président a lancé bien les choses. Améliorer les conditions de développement, de décollage
donc
de notre pays.
Donc la population doit s'attendre à des très bons résultats dans cette affaire.
La RDC est condamnée à vivre dans de bonnes relations avec tous les voisins pour que la RDC puisse rayonner comme une puissance. Et donc, ce qui se fait à l'Est, les décisions du président de la République, sur le plan militaire, c'est de la géostratégie. Et donc, l'ennemi est là, il faut le combattre à l'échelle régionale.
Voilà.
L'armée ougandaise est venue ici à notre demande, dans le cadre de la coopération. L'armée ougandaise ne dirige pas l'armée congolaise, n'est-ce pas? Il faut faire attention. On est dans le cadre
de la mutualisation, ce n'est pas comme dans les mutuelles, où chacun vient,
L'armée ougandaise ne dirige pas l'armée congolaise. L'armée congolaise est sous commandement de nos officiers, et nous avons des officiers extraordinaires. Moi, j'ai fréquenté les officiers congolais. Mais il faut qu'on parle de notre armée avec fierté. Nous avons une élite militaire de très grande qualité. Voyez-vous? Et donc, qui savent ce qu'il faut faire. On pourra en parler. Et donc, si nous développons, on fait un peu de technique, la puissance militaire, parce qu'on parle toujours de l'armée, oui, on n'a pas de moyens. La puissance militaire dépend de la puissance économique. Et donc, nous devons développer une économie digne de ce nom, qui va gérer des ressources pour nous permettre d'avoir, de financer l'armée.
Alors,
donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Il faut y aller de l'avant. Il y a le problème du procès. Mais le procès,
on va y revenir. Le temps peut-être d'écouter Amos et Jean-Baptiste. Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est en premier? Jean-Baptiste, vous êtes en ligne à Kisangani?
Oui, je suis en ligne. Je vous suis attentivement avec les explications du professeur.
Alors, vous avez la parole. Quelle est votre contribution rapidement?
Oui, je salue le professeur hein, avec toutes ses explications. Je crois qu'il maîtrise très bien les entités de l'Est et surtout de l'Ituri, quand il parle de Haro,
Arihuara,
Kaliko, Kakwa. Bon, moi, je suis de là. Moi, je suis de là. Mmh. Je suis venu à Kisamani pour des raisons personnelles. Je crois que oui. Sur le plan de limite de frontière, en tout cas là, on a une très belle coopération avec l'Ouganda parce qu'il y a un trafic plus profond qui s'exerce dans ces deux pays, surtout à Haro qui exerce de fortes activités avec l'Ouganda. C'est bien évident que de dire sur le plan géostratégique ou géopolitique que ces deux pays ne soient pas en conflit.
C'est évident. Ils sont condamnés de cohabiter. Ils sont condamnés de vivre ensemble.
Pardon ?
Ils sont condamnés de vivre ensemble, les deux pays.
Ils sont condamnés de vivre ensemble alors que les professeurs n'oublient pas. Mais il fait semblant que ce pays a des antécédents historiques. L'histoire de ces deux pays repose encore sur les antécédents.
La guerre des six jours.
Il faut penser qu'il faut, en tout cas, y mettre fait avant tout. On se rappelle à 1997, le professeur a bien cité avec toutes les explications qu'il donne. Il a donné l'exemple.
En 2000, avec la guerre des six jours.
Pardon ?
En 2000, avec la guerre des six jours.
Exactement. Exactement ici à Kisangani, à 2000.
Les Rwandais se sont battus à côté avec les Ougandais.
Exactement. Alors, il a donné l'exemple avec la France et l'Allemagne. Je crois que ces deux pays où il a respecté les accords qui ont abouti aujourd'hui à cette coopération qui existe entre la France et l'Allemagne. Mais pour nous, la RDC et l'Ouganda, ce n'est pas le cas. Les accords qui ont
été... Oui, déjà, l'accord de Addis-Abeba n'a jamais été respecté. L'RDC a mis en place un mécanisme de suivi, mais de l'autre côté, il n'y en a jamais eu.
C'est vrai, exactement, vous voyez. Donc, on est dans une situation qu'il faut bien entrevoir. Je crois que je comprends à travers cette coopération du président de la République, Félix Tshisekedi, c'est souci profond, vous voyez, de trouver la paix en l'air de la RDC, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque moment, il y a des tueries, et le chef de l'État est effectivement soucié de ça. Mais je crois que l'issue de cette coopération avec l'Ouganda ne rassure pas, ne nous rend pas optimistes, d'autant plus qu'on a eu deux histoires amères, un passé encore amère. Je crois qu'il faut, pour moi, comme il y a un monsieur qui est intervenu des États-Unis, je crois que il a mentionné un truc très important. Cette coopération avec l'Ouganda devrait à tout premier lieu être discutée au niveau du Parlement, pour pouvoir dégager le pour et les contre, dégager est-ce que effectivement cette coopération peut aller ou ne peut pas aller, parce que faut pas oublier l'histoire. Et une chose que je dois mentionner, entre les États, il n'y a aucune fraternité.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On n'a pas assez de temps. On va prendre encore deux autres auditeurs. Amos qui était à Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous avez la parole, quelle est votre contribution Amos?
Merci bien. En fait, jusque-là, le peuple congolais continue à se demander à quand la RDC sera réellement un État capable de se défendre et défendre son peuple. Parce que si vous le faites de suivre ce que le professeur dit aussi bien, je le comprends, et c'est ça le mal du Congo. Les gens qui changent le langage selon leurs intérêts et ils changent directement le comportement. Je comprends le professeur, il avait le même langage hier pour l'FCC, aujourd'hui c'est à l'Union sacrée, c'est un danger pour la République. Mais les grandes questions que les gens se posent aujourd'hui, c'est quoi? Il faudra combien de forces étrangères en RDC pour que finalement la paix revienne à l'Est? Parce qu'on nous dit qu'il y a des Kenyans, il y a des Rwandais, il y a des Américains, aujourd'hui des Ougandais. Et vous allez vous souvenir qu'il y a eu même contradiction dernièrement au niveau national, où le gouvernement dit qu'il ne reconnaît pas la présence des Ougandais sur le sol congolais. C'était ridicule pour un État qui se dit un État responsable. Et c'est très grave. DT, une autre question. Quel est encore le rôle de la MONUSCO en RDC? La MONUSCO fait quoi encore en RDC? Des trois, qui commande les opérations sur le terrain? Parce que devant une multitude de forces, on ne sait pas qui commande qui, et on risque de vivre une cacophonie, et soit ce qu'on a vécu encore avec la guerre de six jours à Kisangani. Et tout ça, ça sera au détriment du peuple congolais. Une autre question que la population se pose, payera ces forces qui sont en train de venir sur le sol congolais. Moi, je pense que le professeur devait comprendre que la présence de ces forces prouve à suffisance que jusque-là, la RDC demeure un État effondré, un État en déliquescence, un État très faible par manque de dirigeants responsables. Parce qu'avec l'UDPS dans la rue, elle nous disait chaque jour, une fois au pouvoir, nous commencerons d'abord par organiser l'armée. Que la RDC ait une armée capable de sécuriser son peuple et le territoire national. Mais plus de 3 ans au pouvoir, l'armée n'existe pas au Congo, parce que si nous aurions une armée, on n'aurait pas allé inviter des forces étrangères pour qu'elles viennent imposer la paix. Mm-hmm. Ça montre que le pays serait encore dans la rue jusque-là et serait un danger pour la RDC.
Merci moi, beaucoup. Je pense
que quand on traite une question nationale, il faut mettre de côté les sentiments, il faut mettre de côté des intérêts partisans et dire la vérité en face. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes avec ce régime à inviter encore des troupes étrangères qui viendront encore causer du tort au peuple congolais. Ça prouve à suffisance l'irresponsabilité et l'incapacité de ce régime de honte.
Merci beaucoup, Amos. Alors, on va prendre Kalo Kaloji. Kalo, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, monsieur Hier, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution, Kalo?
Vous savez, cette question, c'est une question de vie pour la RDC. Même si les amis parlent aujourd'hui de cette question sécuritaire, moi je pense qu'on doit avoir aussi des retenues parce que il y a certaines choses qui nous sont...
De secret défense qu'on ne peut pas livrer.
Oui, effectivement, nous parlons superficiellement, mais le contenu, et ce que les autorités ont dit pour inviter plutôt cette armée, nous ne le connaissons pas. Mais néanmoins, nous connaissons que toute initiative tendant toujours à amener la paix à l'Est, moi, en tant que Congolais, je soutiens. Il ne faut pas voir, effectivement, nos voisins, toujours avec l'œil que nous avons vu, les Ougandais et les Rwandais, avant. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ici, il faut connaître qu'il y a quand même des relations. Parce que les choix des Ougandais et plus non les Rwandais, ça signifie que les autorités ont fait une étude au préalable pour connaître cela. C'est-à-dire les ADEF et les CODECO. Ne sécurise pas seulement la RDC, ça doit aussi, peut-être, il sécurise aussi les autres côtés. Alors, ces choix ici, moi, je trouve que vous parlez, faites des commentaires, effectivement, mais ce qui est important pour moi, c'est de trouver la paix à l'Est, quelle que soit l'initiative, quelle que soit l'optique que les autorités vont prendre. Ça, c'est ce que moi, je retiens. Mais néanmoins, il faut reconnaître que le président de la République, moi, je le soutiens parce qu'il est en train de fournir l'effort toujours
pour chercher la paix. Merci beaucoup, Kalo. Merci beaucoup, Kalo. Alors, on va prendre John Odiane. John Odiane, vous êtes à Isiro. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour, cher JR. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, quel est votre avis?
Oui, merci beaucoup pour m'accorder la parole, cher JR. Il faut d'abord savoir que quel que soit nos passés, quel que soit ce qu'on va parler, nous restons avec la frontière commune avec notre pays voisin. Mm-hmm. Ce qui est important pour nous, il faut qu'on puisse savoir que non. Au-delà de ça, même si on n'aime pas les Ugandais, même si on n'aime pas les Rwandais, même les Angolais, on restera toujours avec ces gens-là. Le problème qui se pose, c'est plutôt la politique qui cherche maintenant à détruire la vision. Parce que ce qui est vrai, il y a des gens qui traversent en Ouganda, qui viennent au Congo, c'est comme ça, ça se passe comme ça au niveau des frontières. Mais c'est plutôt la politique qui cherche plutôt leurs intérêts. Ce qui est vrai pour moi, je ne vois même pas le mal des Ougandais. Le problème est que...
Voilà, donc vous appuyez, vous soutenez, vous soutenez la
ligne. Les Ougandais nous disent que non, ils vont quitter le sol congolais, s'ils voient les derniers à des finales. C'est à ce niveau-là que je suis en train de craindre, parce qu'on ne peut pas quand même dire ça. Il faut qu'on puisse nous définir. Il faut prendre
la durée, ça, combien de temps, le chronogramme.
De soldats là, il faut quand même qu'on puisse définir bien clairement leur mission. Il faut prendre combien de temps, après il faut quitter progressivement de entièrement, parce que c'est ça le vrai problème.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, John. Alors, professeur Soumey, vous allez placer un mot. Professeur Soumey, vous allez placer un mot depuis les États-Unis, parce que vous êtes également aussi chercheur. Alors, quel est votre sentiment après avoir écouté les autres?
J'ai un sentiment de déception après avoir écouté le professeur, de la façon dont il traite une question très sensible avec une légèreté que je ne comprends pas. Et je suis très inquiet, monsieur le professeur. Je suis très inquiet. La population n'est pas, elle n'est pas dupe aujourd'hui. Quand vous comparez d'abord, premièrement, l'Allemagne, la France, l'Ouganda et le Congo, ça se soude du bois en fer. Et ça se dit, vous faites un sophisme, mon frère. Ce n'est pas possible que vous puissiez arriver à comparer comme ça. Nous devons commencer par d'abord finir notre problème qu'on a avec l'Ouganda. On ne refuse pas, on va vivre des siècles ensemble. Mais nous avons un litige pour être litige fini.
Donc vous souhaitez qu'on commence d'abord par régler ces litiges et revenir chercher la paix.
Absolument.
Mais ça nous prendra des années.
Absolument.
Ça nous prendra des années. Parce que les litiges, l'Ouganda a été déjà condamné. Il a été déjà condamné de payer.
Déjà condamné.
Oui.
Oui, monsieur le journaliste, est-ce que vous pouvez écouter? L'Ouganda a été condamné. Est-ce qu'il y a eu déjà réparation?
Et c'est dans cette démarche-là, il y a un collectif des avocats qui suit.
On n'a pas été victime.
Oui.
Quand on n'a pas été victime, on peut tenir un discours et comme on le tient là, mais il faut se mettre à la place des victimes. Moi, je pense qu'il faut,
donc régler d'abord les litiges et puis chercher la paix après.
Oui, il faut résoudre d'abord le problème de l'Ouganda et après on va éviter l'Ouganda. Mais si là où la MONUSCO a échoué, vous pensez que l'Ouganda va réussir? Le vrai problème ce n'est pas l'Ouganda. Le vrai problème, les ambitions, l'hégémonie qu'a les leaders de l'Ouganda.
Merci beaucoup, professeur. Alors, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue d'un parole aux auditeurs qui consacrent son débat sur les troupes ougandaises qui participent dans des opérations militaires à RDC depuis le 30 novembre dernier. Mutualisation, pour quel résultat? Nous en parlons donc, professeur Tshibango Kalala. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que vous venez d'écouter?
Oui, oui, je comprends. Jean-Louis, je vois que c'est Machiavel. Je réponds au professeur Sommeil qui est aux États-Unis. Je crois qu'il est à... C'est pas 8000 kilomètres.
À plus de 8000 kilomètres.
À plus de 8000 kilomètres. Il ne comprend pas les réalités que nous vivons ici. Je comprends bien. Mais je crois que c'est Machiavel qui avait dit ça. Qui était un politicien lui-même, un diplomate, un écrivain, un philosophe. Hein. Vous avez dit, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Quelle est la fin, le but de la RDC? Le but du président de la République, la paix et la sécurité dans la partie orientale de notre pays. Quels sont les moyens qu'il faut mettre en jeu? En dehors des moyens illégaux, immoraux qu'on peut condamner, mais tous les moyens légaux doivent être utilisés.
Notamment associer les voisins.
C'est un problème. Mais les États-Unis d'Amérique, qui est un pays le mieux renseigné aussi, nous dit que ces gens-là, ce sont des terroristes, ce sont des djihadistes, c'est Daesh, et il faut les combattre. ADF est sur la liste des mouvements terroristes internationaux. Ils doivent être combattus sur le plan international. Ce sont les États-Unis qui le disent. Vous comprenez? Et donc, cet ennemi international qui a des ramifications, avec des Éthiopiens qui arrivent, des Burundais qui sont là, etc., on ne peut les combattre que sur le plan international. Je répète, que l'Ouganda n'est pas un pays ennemi. Oui, vous. Je ne sais pas si le professeur Soumaï a déjà été à Kampala. Moi, j'étais à Kampala plusieurs fois. Mais c'est des pasteurs congolais qui ont la Bible là-bas, qui prêchent partout. Vous allez dans les bars, mais c'est les Congolais, c'est la musique congolaise. Vous êtes à Kampala pour les Congolais. Ils sont chez eux. D'ailleurs, il y a des Congolais qui sont ici à Kinshasa. Pour aller à Bunia, ils préfèrent passer par Entebbe. Et prendre les bus, venir par route, en passant par l'Ouganda pour arriver à Bouya, etc. Donc si vous ne connaissez pas ces réalités, vous allez commencer à raconter n'importe quoi. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ce que le président a fait.
Allô?
Eh bien, il faut combattre cet ennemi qui est là, que le président a trouvé, il est là depuis 20 ans, le combattre avec tous les pays voisins ensemble. Il faut le faire à l'échelle régionale. Nous avons le problème du procès. Mais cette affaire est entre les mains de la justice internationale. On a déjà condamné l'Ouganda à payer.
et l'Ouganda va payer. Nous attendons le montant. Nous attendons que la Cour internationale de justice nous communique maintenant le montant que l'Ouganda doit payer. Et nous allons voir, le procès est là, ce n'est pas encore fini. Mais on ne peut pas
mais
laisser...
Vous étiez sur les dossiers, mais pourquoi oui. on vous a retiré les dossiers?
Non, mais il y a une clique de vampires, une clique d'affairistes politiques qui ont arraché les dossiers parce qu'il y avait de l'argent.
Parce que vous étiez l'avocat conseil de la République, vous avez suivi les dossiers, après oui. on vous les ravit,
oui, oui.
voilà que le dossier est stagne,
oui, mais justement.
Traîne.
Et j'ai une inquiétude parce que je suis ce dossier. Je ne sais pas si on aura l'argent qu'on aurait pu avoir parce que le dossier a été abîmé par des affairistes qui n'ont pas pu défendre le pays comme il fallait le faire. Mais en attendant, on ne va pas laisser les Congolais, nos frères et sœurs, mourir à l'est du pays parce qu'il y a un problème d'argent avec l'Ouganda. Et donc, les réparations vont venir. La Cour va nous communiquer le montant dans les prochaines semaines et on va négocier avec l'Ouganda pour payer ce montant. Mais en attendant, l'Ouganda, c'est un partenaire régional, c'est un pays voisin. On ne va pas chasser l'Ouganda. Nous avons 817 kilomètres de frontières communes avec l'Ouganda. Nous devons coopérer avec l'Ouganda. S'il y a des problèmes, on se mettra autour de la table pour les résoudre. Ce n'est pas voilà. Museveni qui représente l'Ouganda. Il va partir, mais l'Ouganda reste un pays voisin. Le Rwanda reste un pays voisin. Nous devons améliorer nos relations avec ces deux pays, avec l'Ouganda, parce qu'il s'agit de l'Ouganda aujourd'hui, pour que nous puissions créer une zone de paix, de sécurité, de développement, une zone de coprospérité dans notre région, pour que les deux voilà. peuples vivent en
professeur,
paix.
On ne fera pas aller plus loin, je crois qu'on va terminer voilà, par là, mais il y a un auditeur qui avait envoyé un message spécial à vous, parce que lorsqu'il a eu l'occasion qu'on allait vous recevoir, il dit, il est resté sous sa soif, hein, lorsque vous êtes intervenu dans l'émission sur les confessions religieuses et pratiquement sur la question de la CENI. Il m'a demandé de vous poser la question, au cas où on n'obtenait pas le nombre des 15 membres de la CENI, et les résultats seront-ils entérinés avec les trois absents?
Oui, très rapidement. Non, je renvoie
Ce n'est pas le sujet du jour, mais
parce que c'est important. Je lui demande de lire l'article 23 de la loi sur la CENI. Il y a 15 membres. Ce qui compte, c'est le quorum pour se réunir. La loi est claire. Pour que la CENI se réunisse valablement et prennent les décisions valablement, il faut qu'il y ait au moins 9 membres présents à la réunion. 9 sur 15. Donc s'il y a 9, c'est suffisant. Et les décisions se prennent soit par consensus,
soit par vote.
S'il y a consensus, ok. S'il n'y a pas consensus, on vote. Donc, aujourd'hui, nous avons 12 membres.
Qui sont déjà au-delà de 9.
C'est déjà au-delà de 9. Nous avons déjà 12 membres.
Donc le problème ne se posera pas.
Le problème ne se pose pas. S'il y a au moins, si les 12 se réunissent, disons, même s'il y a 9 qui se réunissent, ils vont engager valablement la CENI. Que les 3 là, on peut souhaiter que les 3 viennent, mais si les 3 ne viennent pas,
les
on peut aller jusqu'aux élections en 2023 ou plus
même
tard,
en 2028.
Et les 12 vont engager valablement la CENI.
Professeur Tshibangu Kalala,
pas s'inquiéter pour ça.
Désormais, nous allons nous habituer à vous appeler professeur ordinaire, parce que c'est ça le titre que vous a confié aujourd'hui le ministère de l'ESU par l'arrêté ministériel.
Merci
de nous avoir honoré de votre présence.
Merci.
C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. À très vite pour un autre.